parler de l'exploration spatiale, mais le titre est un peu général ici. Je vais focaliser cette conférence sur une planète. Pourquoi ? Parce que elle fait l'objet d'une exploration intensive, et il y a des bonnes raisons à cela. Par exemple, à la NASA, vous avez un programme d'exploration de Mars. Vous n'avez pas de programme d'exploration de Vénus, de programme d'exploration de Saturne, de programme d'exploration de Jupiter. Vous avez une mission sur Jupiter, une mission sur Saturne. Quand je dis qu'il y a un programme d'exploration de Mars, ça veut dire qu'il y a une succession de missions qui ont lieu. Il se trouve qu'on peut lancer des fusées vers Mars tous les 26 mois, tous les 2 ans. Et finalement, les Américains envoient effectivement des missions spatiales tous les 26 mois. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 26 mai à 1h30, 1h40 du matin, heure française, date à laquelle un engin va se poser sur Mars, ça s'appelle Phoenix, et je vous montrerai un peu ce que cet engin va faire près du pôle nord de Mars. Alors là, vous avez une image sous les yeux qui est en fait un montage sur ordinateur d'images prises par Hubble. Vous connaissez Hubble, c'est un satellite d'observation de l'univers qui est en orbite autour de la Terre, et qui a pris des photos de Mars. Donc avec ces photos, on fait des choses qui sont maintenant assez classiques, on fait des montages et des animations. L'intérêt de cette image, c'est d'une part de vous montrer globalement ce qu'est cette planète. Là, vous avez une vision que je qualifierais du 19e siècle sur cette image, c'est-à-dire que vous voyez essentiellement des variations de couleurs, ou on appelle en langage technique variations d'albédo, et qui ne correspondent pas à des reliefs. Ça, c'est la région Syrtis Major la plus sombre de Mars, qui était connue au 19e siècle. Vous allez vous distinguer à peine au passage un énorme volcan. Toutes ces variations ici sont liées à de la couleur du sol, tout simplement. Certains ont vu la présence de lichen au 19e siècle, mais tout ça n'était malheureusement qu'une illusion d'optique. Alors, pourquoi on s'intéresse à Mars ? Parce que cette planète est la seule dans le système solaire, c'est-à-dire dans le système des planètes autour de notre Soleil. Il y en a 9, encore quand on a débaptisé Pluton. Vous savez, Pluton n'est plus officiellement une planète. Et c'est la seule où on se pose très sérieusement la question de savoir si la vie n'est pas apparue en dehors de la Terre, donc sur Mars. Et le gros intérêt de l'étudier, c'est que finalement, c'est l'endroit le plus facile d'accès dans l'univers où on pourrait trouver la vie ailleurs que sur Terre. Donc c'est pas une mince affaire. Ça fait 5000 ans que l'homme se pose la question, est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? On pense qu'il y en a, mais on n'en a pas trouvé. Et c'est pas très facile à trouver parce que l'univers est très grand, parce que les voyages interstellaires sont impossibles encore pendant une cinquantaine d'années, je dirais. Peut-être que la deuxième moitié du 21e siècle, on va commencer à envisager les choses, mais tout ça est quand même très très lointain. Sur Mars, il n'y a pas de petits hommes verts, vous le savez. Néanmoins, on se pose très sérieusement la question de savoir si la vie n'a pas existé et également de savoir si des petites bactéries n'existent pas encore sur Mars. Et c'est l'objet des missions spatiales en cours et surtout futures pour essayer de traiter cette question. Alors, juste un mot, juste pour vous dire que hier à 16h, le disque dur de mon ordinateur a totalement rendu l'âme. Donc j'étais obligé de refabriquer une conférence avec des sauvegardes, donc je vous invite à faire des sauvegardes. Sinon, j'aurais été obligé d'annuler totalement cette conférence. En gros, le disque dur qui est là-dedans est tout vierge. J'ai récupéré ça sur des CD-ROM de sauvegarde. Alors, un mot sur un peu de physique, mais il n'y en aura pas beaucoup, je vous rassure tout de suite. Vous avez ici comparé la Terre et Mars si on les avait rapprochés. Donc, vous voyez tout de suite que Mars est plus petit que la Terre. Il y a à peu près un facteur 2 en diamètre. On va simplifier les choses. 2 puissance 3, ça fait 8. Simplifier encore, on va dire un facteur 10. Donc ça veut dire que le volume de Mars est 10 fois plus petit que le volume de la Terre. Or, les planètes, au moment où elles se forment, elles agglomèrent tout ce qui passe, je dirais au moment où ça s'agglomère. Elles emmagasinent de l'énergie. Cette énergie, c'est essentiellement des atomes radioactifs qui ont tendance à décroître et à fabriquer de la chaleur. Donc l'énergie est proportionnelle au volume. Et la planète rayonne, vous avez appris le corps noir, je pense, des choses comme ça. Bon, toute personne rayonne, vous connaissez les caméras infrarouges utilisées beaucoup par l'armée. Si vous êtes chaud, vous êtes visible dans l'infrarouge, c'est-à-dire vous rayonnez. Par contre, les corps froids, un arbre, un rocher sera pratiquement invisible sur la caméra. C'est comme ça que vous pouvez voir la nuit dans les zones de guerre. La planète, c'est pareil, elle est à 3,5 300 Kelvin, c'est-à-dire que la planète Terre en moyenne fait 15 degrés entre le jour, la nuit, l'été, l'hiver. Donc ça rayonne. La planète Mars rayonne aussi. La surface d'une sphère, c'est 4 pi R3. Le résultat, c'est que plus un corps planétaire est gros, plus il va mettre du temps à se refroidir par sa surface. Mars étant 10 fois plus petit que la Terre, bon ben Mars s'est refroidi plus vite. Aujourd'hui, sur Mars, il fait froid. Il fait à peu près 0 degré le jour, à l'équateur, on simplifie encore, et la nuit, il fait moins 80, moins 100 degrés. Donc, c'est vraiment très froid. Et si vous allez sur Mars, vous allez avoir, et ça c'est tout à fait curieux, une différence de température entre les pieds et la tête qui sont d'environ une vingtaine de degrés. Donc le sol est chaud et vous allez avoir la tête extrêmement froide. Voilà, bon, ça c'était une anecdote. Le résultat, c'est qu'on peut se dire, bon, bah, si Mars est froid, il n'y a pas de liquide, donc l'affaire est entendue. Peut-être. Néanmoins, alors un mot quand même sur le paysage, enfin sur le portrait de la planète. Vous aviez vu une image Hubble, ça c'est une image faite par un satellite dans les années 70. Vous voyez qu'on a, on a accumulé des images individuelles ici. C'est un satellite qui tourne autour de Mars, qui tournait, qui est aujourd'hui mort. Et voilà peut-être le portrait le plus connu, Valles Marineris. Pourquoi Marineris? Parce que c'est Mariner 9 qui l'a découvert. Une gigantesque vallée qui fait, vous connaissez peut-être le Grand Canyon du Colorado, ben, c'est ça, puissance 10. Ça, ça fait la largeur du continent nord-américain, 5000 km, 8 km de profondeur et 300 km de large ici. Des grands volcans, je vous en montrerai quelques-uns, gigantesques volcans. Il y en a peu, mais ils sont très très gros. Et déjà, vous voyez des traces de, visiblement, des choses ont coulé ici, peut-être par là encore. Donc on peut se poser des questions de savoir si de l'eau n'a pas coulé sur cette planète à une époque. Ça, c'est une autre vue un peu similaire pour vous montrer qu'il y a aussi des nuages. Donc toutes ces taches blanches, ce sont des nuages, c'est pas de la neige. Et le très grand volcan au haut à gauche, je vous montrerai tout à l'heure, il fait la taille de la France, à la périphérie. C'est-à-dire 700 km de diamètre. C'est un des arguments en faveur de l'absence de tectonique des plaques. On pourra en parler peut-être dans la discussion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande mission spatiale très, très fructueuse dans les années 70, américaine, qui s'appelait mission Viking. Et les missions Viking ont fait deux choses, essentiellement. D'une part, des engins qui ont tourné, qui ont pris ces images. Et d'autre part, des engins au sol qui ont cherché la vie sur Mars. Vous connaissez la réponse. Ça serait, on n'a pas trouvé la vie sur Mars. Néanmoins, on a trouvé des choses depuis l'orbite très intéressantes. Alors, d'une part, ce type de fleuve asséché, bon, ça ressemble à un fleuve asséché, hein, vu de loin, ça prouve qu'il y a un liquide qui a coulé. Ce liquide, on pense que c'est de l'eau. On pourra en discuter. Pourquoi on pense que c'est de l'eau? C'est pas très simple à expliquer, mais enfin, il y a des arguments pour ça. On a du mal à imaginer d'autres liquides. L'eau a des propriétés tout à fait exceptionnelles en chimie. Et donc, premier grand type de manifestation due à l'eau, c'est ce qu'on appelle des vallées ramifiées, c'est-à-dire en fait des fleuves asséchés. Une précision tout de suite, la pression sur Mars est de 6 millibars à peu près, c'est-à-dire moins d'un centième de la pression terrestre. Vous savez que si vous faites bouillir de l'eau en haut du Mont Blanc, l'eau ne boue pas à 100 degrés, elle boue à 70 degrés. Pourquoi? Parce que la pression est plus faible. Sur Mars, c'est pire que ça. Si je pose un verre d'eau, l'eau boue instantanément. Et au bout de quelques secondes, j'ai un petit glaçon au fond et tout est parti en phase vapeur. Ça veut dire que l'eau liquide n'est pas thermodynamiquement stable, c'est pas possible. Néanmoins, vous allez voir que l'eau a laissé beaucoup de traces. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, ça c'est une image plus récente que Viking, mais elle parle d'elle-même. Là, c'est ce qu'on appelle une vallée de débâcle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est manifestement de l'eau s'est déversée depuis cette zone-là et est partie en diagonale ici. Voilà des cratères d'impact. Donc, tous ces ronds sur ces images sont des cratères d'astéroïdes, de grosses météorites qui ont fait des cratères comme sur la Lune. Dès que vous voyez une image où vous voyez des cratères, dites-vous dans votre tête que cette surface est très ancienne. Quand je dis très ancienne, vous savez que le système solaire fait 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que vous voyez quelque chose qui est là depuis 2 milliards et demi d'années. Très ancien. Donc ces cratères sont très anciens. À l'époque où ça bombardait partout, on en recevait sur la Terre. Sur Terre, il y en a très peu parce que l'érosion a complètement, la dérive des continents, a complètement érodé tous nos cratères. On dénombre une centaine de cratères sur Terre, et encore, beaucoup ont été découverts par les satellites. Le plus célèbre, si vous allez aux États-Unis, il faut aller voir le Météor Cratère. C'est le plus beau du monde. Il fait 1,2 km de diamètre. Il est très récent, il date de 50 000 ans. Donc là, l'eau est passée, elle est rentrée dans les cratères, et vous avez une forme en goutte d'eau. Bon, ben ça, c'est de la photo-interprétation. On se dit, il y a quand même un liquide qui est passé par là, qui est complètement chamboulé. Vous voyez que ces cratères en bas sont complètement, ont pratiquement disparu. Il reste un tout petit bout ici. Et ça, c'est une débâcle. Une débâcle, ça dure 24 heures, peut-être moins. C'est des torrents d'eau gigantesques, peut-être 100 mètres de haut sur des kilomètres de large. Donc, si vous imaginez les débits, vous imaginez la quantité d'eau qui a pu s'écouler. Vous allez dire d'où vient cette eau.
S'il vous plaît, monsieur, deux fois et demandez en mécanique auto. Merci.
Alors, la source des vallées de débâcle, c'est probablement ce que vous avez sur cette image. Donc, on pense qu'il y a de la glace d'eau dans le sol, que pour des raisons de température, le soleil, etc., peut-être des sources internes, dans ce terrain, tout ça s'est mis à fondre. Et quand ça fond, ça s'effondre totalement, et si la pente est vers là, tout ça se met à dégouliner et à faire le débat que vous avez vu précédemment. Les images sont à 10 mètres par pixel, hein, pour vous donner une ordre de grandeur, c'est-à-dire que les petits points que vous voyez là sont des énormes blocs de 30, 40, 50 mètres de diamètre qui n'ont pas pu être déplacés par l'eau. Par contre, tout le reste est parti. Vous voyez qu'il y a un volume ici, gigantesque, qui s'est évacué et qui a créé la débâcle que vous avez ici. Donc, deuxième manifestation du halo, et c'est une manifestation importante. Il y aurait plein de glace. Il y a très certainement plein de glace d'eau dans le sous-sol. Alors bon, ça c'est la répartition géographique pour ceux qui s'intéressent à la question. Ce qui est assez curieux, c'est que les vallées de débâcle sont en rouge. On retrouve Valles Marineris là, on retrouve les trois volcans de Tarsis. Mais le rouge et le jaune ne se superposent pas beaucoup. Donc soit vous avez des vallées de débâcle ici, soit vous avez des vallées ramifiées. On n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, mais c'est une observation statistique. Dans les années 2000, on a trouvé d'autres choses nouvelles. On a trouvé ces images qui sont à une échelle beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici fait à peu près un kilomètre de long, une dizaine de mètres de large, c'est des images à 2-3 mètres de résolution par pixel, et on appelle ça des ravines. Donc on est sur un flanc de falaise, on est sur un flanc de cratère, et manifestement ça dégouline de partout, et ça a fait couler beaucoup d'encre, cette publication avec ces images, parce que on n'arrive pas à comprendre comment ces ravines peuvent couler. Je vous ai dit que si on mettait un verre d'eau sur la table, sur Mars, eh bien l'eau s'évapore tout de suite. Donc comment est-ce possible? Il n'y a pas de réponse très simple à ça. Il y a vraiment un débat scientifique de savoir comment on peut obtenir ce genre de ravine. En tous les cas, c'est un fait observationnel que ce genre de choses existe. Il faut arriver à l'expliquer. Il y a des gens qui ont évoqué du CO2, du gaz carbonique, du CO2 en phase fluide. C'est des choses qu'on ne connaît pas très bien, même sur Terre. Alors, à ne pas confondre avec ce que vous avez ici, deux images entre 2002 et 2005, sur une dune. Vous avez une dune, et manifestement, il s'est passé quelque chose. Voilà. Il s'est passé ce qui se passe là. Il y a eu un écoulement. Bon, en fait, là, on a affaire à un phénomène parfaitement sec. On est au sommet d'une dune, et vous avez un écoulement de sable, tout simplement. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a un petit trait comme ça que c'est automatiquement de l'eau qui a produit le phénomène. Là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des écoulements secs. C'est quelque chose qui existe aussi. Alors, une image encore, et ce sera la dernière, sur ces fleuves. Là, on a un très très beau fleuve asséché, beaucoup de cratères, donc tout ça est très ancien. La largeur fait 2,5 km. Donc on est au niveau de l'Amazone à son embouchure. Ça vous donne la dimension un petit peu du fleuve. La quantité d'eau qui a creusé ce sillon sur des siècles, des millénaires. Et si vous regardez bien, vous avez ici l'amorce d'un fleuve de la taille de la Seine ou du Rhône, au moment où l'eau commençait à se tarir. Là aussi, on a un argument important pour dire que l'eau a coulé pendant des siècles ou des millénaires ici. Ce n'est pas suffisant pour créer la vie. Parce que sur Terre, on pourra en parler dans le débat qui va suivre, sur Terre, on a des... Bon, toutes les études de l'apparition de la vie sur Terre montrent qu'il a fallu typiquement 100 millions d'années dans les océans pour que la vie apparaisse. Et probablement qu'elle est apparue plusieurs fois. Il y a eu des bombardements météoritiques cataclysmiques qui ont fait que les bactéries ont toutes crevé. Et ensuite, à nouveau, la vie est réapparue peut-être 2-3 fois avant que, au bout de 500 millions d'années, effectivement, ces bactéries se mettent à bien proliférer dans les océans. Et ensuite, la vie est sortie des océans. Donc, 1000 ans, c'est pas assez. Il faut 100 millions d'années. Donc, il faut trouver d'autres arguments pour être vraiment convaincu que la vie existe sur Mars. Et vous allez voir qu'on en a d'autres. Alors ça, c'est une image de l'époque viking, un gros cratère d'impact avec un piton central. Bon, ça, c'est un phénomène de remontement des impacts. Vous avez vu des images de gouttes d'eau. Il y a toujours, souvent un phénomène de rebond dans l'impact d'une goutte d'eau sur une surface liquide. C'est le même phénomène sur une surface solide. Vous avez un piton central qui se crée par le rebond. Tout cratère au-delà d'un certain diamètre possède un piton central comme ça. D'ailleurs, les cratères lunaires les possèdent. Juste un chiffre, une météorite d'un kilomètre de diamètre va créer un cratère d'environ 10 km de diamètre. C'est à peu près l'ordre de grandeur des chiffres. Donc, si vous avez un cratère de 100 km, ça veut dire que vous avez un engin de 10 km qui est arrivé. C'est assez dramatique sur Terre, en tous les cas, ça serait totalement cataclysmique au plan global. C'est-à-dire tout le monde mourrait très probablement. Alors, ce qui est particulier autour de ce cratère, c'est ce qu'il y a là. Et ça, c'est unique. Vous ne l'avez pas sur la Lune, vous ne l'avez pas sur Mercure, vous ne l'avez pas sur Vénus, vous ne l'avez pas sur Terre, d'ailleurs. En fait, tout se passe comme si de la boue s'était échappée du cratère dans l'impact. Alors ça a été longtemps interprété comme le fait qu'il y a de la glace dans le sous-sol. C'est d'ailleurs le premier argument qui a été mis en avant pour expliquer qu'il y a de la glace d'eau dans le sous-sol. Au moment où la météorite arrive, l'énergie cinétique se transforme en chaleur, la glace fond, et c'est de la boue qui est éjectée au moment de l'impact. Et ça, vous avez des splashes comme ça sur uniquement les grands cratères. Voilà, donc de l'eau, il y en a eu, il y en a encore, elle est probablement dans le sous-sol, mais aujourd'hui, elle n'est sûrement pas à la surface. Là, vous avez une coupe nord-sud. Le sud est en rouge à droite et le nord est ce qu'on appelle les plaines du nord, le pôle nord ici. S'il y a de l'eau dans le sous-sol, l'eau va ressortir un peu partout et inexorablement va s'accumuler vers le nord, puisque c'est la pente. Je dirais que si on pouvait faire du ski sur Mars, on pourrait pratiquement faire du ski du pôle sud vers le pôle nord grâce à cette pente à peu près perpétuelle. Donc une région extrêmement chahutée vers le sud et des plaines beaucoup plus douces qui ressemblent à un fond d'océan. Alors, de là à penser que, voilà, une vue de Mars qu'on a coloriée en bleu des basses altitudes, donc les zones de dépression. Donc, toutes les plaines du Nord sont en bleu ici. Là, vous avez des très très gros bassins d'impact, c'est différent. Mais beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un océan là-haut? Et c'est un argument tout à fait pertinent. On voit même sur l'image qu'il y a des phénomènes d'érosion ici qui montrent que de l'eau s'est accumulée par là. Bon, en fait, c'est pas si simple. La réponse est peut-être maintenant, peut-être maintenant. Ce qui est sûr, c'est que l'eau s'est accumulée vers le nord. Ce qui est probablement sûr aussi, c'est que dès qu'elle n'était plus en mouvement, elle s'est mise à geler. Parce qu'encore une fois, la température est quand même très très froide. Donc, il n'y a pas eu, on n'a aucune preuve aujourd'hui d'un océan autour du pôle nord qui aurait, dans lequel des bactéries se seraient formées, etc. Enfin, vous comprenez l'argument. Alors, je vous ai parlé d'eau depuis un moment, et finalement, on ne fait qu'interpréter les images. Maintenant, on veut avoir des arguments quantitatifs, essayer d'abord de s'assurer que c'est bien de l'eau que l'on voit. Alors, on utilise ce satellite qui est américain, qui s'appelle Mars Odyssey, en clin d'œil à 2001 Odyssée de l'espace, parce qu'il a été lancé en 2001, justement. Un satellite assez classique, bon, un panneau solaire, une antenne de communication avec la Terre, sauf qu'il a un très très long mât. Bon, pourquoi on a un très long mât? C'est qu'au bout du mât, on a mis une expérience un peu particulière qui s'appelle un spectromètre gamma. Vous savez que dans les domaines électromagnétiques, vous passez du radio qui sont des très grandes longueurs d'onde, l'infrarouge, domaine un peu de la chaleur, le visible, l'ultraviolet, les X, et les domaines les plus énergétiques, c'est le gamma. Alors pourquoi on l'a mis au bout du mât? Simplement, on n'a pas envie de mesurer la composition du satellite. Voilà la raison. Or, on veut mesurer la composition du sol de Mars. Et bon, par des processus un peu subtils, on récupère des photons gamma sur l'instrument et on arrive à mesurer la composition du sol. Alors, on l'a fait avec l'hydrogène. Ah oui, d'abord, les Américains aiment bien faire des choses bizarres. Ils se sont pris en photo eux-mêmes, c'est-à-dire qu'un satellite autour de Mars a pris en photo un autre satellite autour de Mars. Et ça donne à peu près ce que vous avez ici, avec le mât qui est clairement visible et l'instrument en question qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En l'occurrence sur les Américains, mais il y a des Français qui ont travaillé sur cette expérience. Donc voilà la carte de Mars, encore une fois, il va falloir la prendre. Valles Marineris, les volcans de Tarsis, Olympus Mons, et l'autre hémisphère qui est un peu plus banal. On a colorié en bleu tout ce qui est riche en hydrogène, parce qu'on détecte l'hydrogène, si vous voulez dire. On ne détecte pas l'eau, malheureusement, c'est indirect. Par contre, tout ce qui est rouge et jaune, ici, c'est très pauvre en hydrogène attribué à l'eau. Et on a mesuré l'hydrogène dans le sol sur une épaisseur de 1 mètre, pas plus. Donc vous allez me dire, ah, mais oui, mais la glace dont vous parliez les 5 minutes, ben non, la glace elle est peut-être plus profonde que ça. Donc il n'y a pas un lien direct entre la glace dont je parlais dans le sous-sol et la mesure qui est ici. Néanmoins, je vous rappelle que la France est à peu près à 50 degrés de latitude nord, on est à peu près par là. Les pôles de l'hiver, les calottes polaires descendent jusqu'à à peu près 50-60. C'est-à-dire que si nous, nous étions sur Mars, l'hiver, nous serions dans la calotte polaire. Donc tout serait blanc jusqu'au pôle nord, tous les hivers. Donc c'est un hasard, enfin c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, et il se trouve que c'est cette zone-là qui est très riche en glace d'eau, et cette zone-là. Là, vous avez l'été au pôle sud, et vous avez l'été au pôle nord, parce que sinon, on n'aurait rien pu mesurer. Donc c'est très sec ailleurs, et ça, ça nous pose un problème, parce qu'on n'arrive pas à tout comprendre, sauf peut-être deux endroits, celui-là et celui-là. Alors, je vais vous parler d'Opportunity. Opportunity s'est posé ici, on en reparlera tout à l'heure. Et je ne vais pas beaucoup vous parler de Spirit, qui est le deuxième rover américain, où il s'est posé là. Mais en 50 minutes, je ne peux pas tout vous dire, donc je vous lancerai uniquement Opportunity. Ça, c'est les Vikings 1 et 2, et Pathfinder qui s'est posé ici. Alors maintenant, l'Europe. Ben, l'Europe arrive, doucement, mais sûrement, avec ce premier satellite européen d'exploration de Mars, qu'on appelle Mars Express, sur lequel il y avait un engin britannique ici, qui s'appelait Vesposé sur Mars, et cet engin, malheureusement, il s'est écrasé sur Mars, très probablement. Donc, juste un mot, il y a 35 missions spatiales qui sont allées vers Mars. Sur les 35, les deux tiers ont échoué. Et c'est un taux anormal sur Vénus, on a à peu près une trentaine de missions, les deux tiers ont réussi. Alors vous allez me dire, pourquoi sur Mars on échoue et sur Vénus on réussit? C'est pas simple de répondre à cette question. Peut-être qu'on a tenté des choses dans les années 60 avec des technologies qui n'étaient pas du tout au point, et finalement les échecs du début sont assez compréhensibles. Il y avait encore cette idée de trouver la vie sur Mars dès les années 60. Alors avec le satellite européen, voilà ce qu'on fait. D'une part, on fait des images couleurs et des images en trois dimensions. Donc, je vous montre Olympus Mons, le plus grand volcan de l'univers connu. Encore une fois, il fait la taille de la France. Hein. La France va de là à là. 700 km de diamètre, 27 km de haut. Pour les skieurs, ça, c'est une piste verte. Ça fait 3 à 6% de pente. C'est vraiment très, très faible. Ce qui prouve que la lave est extrêmement fluide. Vous avez l'image du Fujiyama, qui est un volcan extrêmement pentu. Ça montre des laves quand même assez visqueuses. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces falaises? Pendant longtemps, on n'a pas compris pourquoi il y avait ces falaises. Ce n'est pas le volcan qui sort de la Terre, ça ne marche pas. On pense qu'il y a eu beaucoup de glaciers autour et que les glaciers ont raviné tout le terrain. Et quand les glaciers ont disparu, les falaises ont montré la frontière entre la zone volcanique et le reste des terrains. Donc des volcans gigantesques, une activité volcanique qui a dû être extrêmement intense. Des choses encore en trois dimensions, ça c'est ce qu'on appelle la paire de lunettes. Ça c'est deux cratères d'impact, ici et là, et manifestement il s'est produit des écoulements de l'un vers l'autre, et on pense que c'est de la glace, un peu comme des glaciers qui coulent sur Terre. Vous savez, c'est un glacier, ça avance doucement, mais ça avance quand même, ça laisse des traces comme ça, des photos aériennes de glaciers. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que ici vous avez de la glace. En fait, on ne sait pas très bien. C'est le problème de l'image, c'est qu'on voit des choses, mais on ne sait pas très bien quelle est la nature du matériau qui est en dessous. Il y a des gens qui disent, attendez, c'est peut-être pas de la glace, c'est peut-être de la lave. Il y a peut-être une activité magmatique qui se serait du magma, qui aurait glissé, qui se serait sorti du sol ici, et qui serait mis à remplir les cratères. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Alors là, on est dans Valles Marineris à nouveau, et vous voyez typiquement un terrain avec des taches claires qui sont assez intrigantes, et simplement, on aimerait bien savoir quelle est la nature de ce matériau, et l'image ne vous donne pas la réponse. Néanmoins, vous avez compris que je vais vous donner une réponse. Alors, vous avez des choses assez curieuses. Voilà un cratère qui vous fait un clin d'œil et qui vous fait un joli sourire. Vous avez des cratères comme ça sur Mars. Vous avez des tas de cratères en forme de cœur. Alors vous allez me dire comment c'est possible. Je vous dirai que j'en sais rien. Mais de fait, quand vous prenez l'image, ils ont une forme de cœur. Il y a des choses assez curieuses. Alors voilà un instrument de Mars Express, qui est un instrument français, qui a été fait à l'université d'Orsay, 30 km au sud de Paris. dans une équipe d'ailleurs qui était mon directeur de thèse, peu importe. Donc ça, c'est un laboratoire qui a fait cet engin qui est à peu près grand comme ça. Deux canaux. Alors on met des capots rouges, on les peint en rouge parce qu'on veut surtout qu'au moment où on monte l'instrument sur le satellite, on pense à enlever les capots. Si vous laissez les capots découvertes, l'instrument ne peut pas fonctionner. Donc on les peint en rouge pour être sûr que les ingénieurs les enlèvent au dernier moment. Et vous avez, en fait, c'est une espèce de caméra qui vous donne des images, mais qui vous donne aussi, pour chaque point, chaque pixel de l'image, un spectre. Et un spectre dans l'infrarouge, ça va nous donner la nature du matériau que l'on voit à travers l'image. Et ça, c'est très puissant. C'est une technique qui est assez récente, qui est très utilisée en planétologie, beaucoup moins sur Terre, parce que la végétation nous embarrasse beaucoup. Alors, on pourrait faire voler ce type d'instrument au-dessus de la Terre, mais la végétation fait qu'on va beaucoup mesurer la végétation et pas beaucoup la minéralogie. Alors, oui, alors ça c'est pour vous parler des pôles. Alors sur les pôles, vous avez, ça c'est le pôle Nord, l'été, encore une fois, parce que si je vous montrais la même image d'hiver, on verrait que du blanc, c'est un peu banal. Donc l'été, vous avez de la glace résiduelle, vous avez un terrain bon, assez classique, mais des choses beaucoup plus surprenantes, ce sont ces taches sombres ici, qui laissent penser qu'il y a, j'accélère un peu, il y a sur Mars, au niveau des pôles, une activité volcanique relativement récente, puisque toutes ces zones sombres ici sont probablement des poussières volcaniques qui ont été déposées au niveau des pôles. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est surtout pour la question de la glace. Depuis un siècle et demi, les gens voyaient de la glace, ils disent « bon ben on a de la glace d'eau sur Mars, très bien, l'affaire est entendue ». En fait, c'est pas si simple que ça. Et le problème est de savoir de quelle glace a-t-on ici. Il y a plusieurs, ce qu'on appelle les glaces, c'est tout gaz congelé à basse température. Donc la glace d'eau, c'est la plus connue, mais la glace carbonique, vous la connaissez, c'est celle qui sert à envoyer les verrues. Et c'est du CO2 à très basse température. Donc la question, c'est quelle est cette glace? Et avec l'instrument Omega, dont je viens de vous parler, on a pu répondre à cette question. Et en fait, vous avez ici, bon, il se trouve que c'est la calotte sud, mais c'est pas grave, c'est à peu près la même chose. Donc ce qui est en blanc, c'est de la glace carbonique. Et ce qui est en bleu, c'est de la glace d'eau. Donc on a sur le pôle sud, essentiellement, un énorme glacier d'eau qui fait 2-3 km d'épaisseur. Et on a une couche de glace carbonique qui est très fine, qui doit faire entre 1 et 10 mètres d'épaisseur. Et ça, c'est une découverte tout à fait importante. Et c'est la première fois qu'on détecte réellement de l'eau sur Mars, sur ce type d'image. Alors, encore un exemple concernant la spectro-imagerie dont je viens de parler. Vous êtes ici dans Vallès Marineris. Encore une fois, ces taches claires, vous voulez savoir ce que c'est. Donc vous allez utiliser Omega, vous allez utiliser la spectro-imagerie, et voilà la réponse. Voilà une de ces taches claires en haut, en vertical cette fois, mais en noir et blanc, et Omega passe par ici. Donc ça, c'est les tailles du pixel d'Omega. Omega ne doit pas être très bonne résolution. Les images sont à 10 mètres, Omega fait 300 mètres par pixel. Et on découvre quoi? Des choses un peu compliquées, mais le gypse, vous connaissez. Le gypse, c'est ce qui sert à faire le plâtre. Donc c'est des sulfates de calcium, la kieserite, c'est un sulfate de magnésium, peu importe. Ce sont des roches sédimentaires. Et ça, c'est une énorme découverte, et des roches sédimentaires hydratées, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans la formule chimique de la roche, et c'est la première fois qu'on trouve des roches sédimentaires sur Mars. Tout le reste, c'était volcanique, basalte, des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, dans Vallès Marineris, encore une fois, mais cette fois en fausse couleur, vous avez à nouveau de la kieserite et des sulfates polyhydratés. J'insiste pas trop, mais ça permet de déterminer la nature des minéraux, et ça c'est des découvertes qui datent de 2003-2004, donc très récentes, et qui nous laissent penser que si ces roches ont pu se former par sédimentation, c'est donc encore une fois que l'eau était présente sur des durées longues. Quand je vous démontrais les fleuves, ça prouvait qu'il y avait eu à peu près 1000 ans. Quand on commence à fabriquer des roches sédimentaires, là on commence à rentrer dans des constantes de temps de l'ordre du million d'années. Et donc l'espoir de trouver la vie sur Mars augmente. Alors, juste pour illustrer une dernière découverte de cet instrument, c'est ce qu'on appelle les argiles. Bon, ben, les argiles, vous en avez peut-être déjà manipulé dans votre vie, c'est quelque chose qui est gorgé d'eau. Et c'est certainement le matériau le plus intéressant sur Mars, les argiles, pour l'exploration future, pour trouver... Par exemple, des traces fossiles de vie très anciennes. Si vous allez sur la falaise de Douvres, par exemple, c'est une falaise de calcaire, et vous la regardez au microscope, ou même à l'œil nu, vous allez trouver des tas de petits fossiles, des petits coquillages. Donc tout ça, ce sont des fossiles de coquillages à l'époque où la roche sédimentaire était un fond d'océan. Et par sédimentation, tout s'est accumulé, les coquillages, certains sont fossilisés, certains sont restés tels quels. Et on pense que dans ces roches de type argileuse, on va trouver des traces fossiles de vie ancienne, en tout cas, c'est l'objectif. D'où l'idée d'envoyer la mission européenne suivante, qui est cet engin dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on appelle ExoMars, sur ce site d'argile qui a été découvert par Omega. Alors, juste un mot quand même sur ces découvertes de roches sédimentaires. Vous avez l'intégralité de la surface de Mars ici, et les points bleus, les points rouges et les points jaunes vous montrent là où il y a des roches intéressantes. Et vous voyez que finalement, ça représente une très faible fraction de la surface de Mars. Il ne faut pas rater son coup. C'est-à-dire, si vous voulez aller voir des endroits intéressants sur Mars, il faut vraiment se poser soit ici, soit là, mais dans ces endroits-là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc on a probablement 5 à 6%, et encore, je suis généreux, d'endroits potentiellement intéressants pour les missions futures. Et ça, c'était une découverte importante. Alors, les découvertes dont je viens de vous parler par Omega a suscité par le responsable de l'instrument, qui s'appelle Jean-Pierre Vivrine, une réécriture de l'histoire de Mars. Bon, je ne vais peut-être pas insister parce que c'est un peu technique. Pendant longtemps, on a travaillé avec 3 zones, et depuis qu'on a trouvé les argiles ou les sulfates, on définit des nouvelles zones, des nouvelles périodes. Ça, c'est la création de la planète. Ici, on est à l'instant présent. Et ça, c'est l'histoire de Mars sur 4,5 milliards d'années. Donc, au tout début, on fait des argiles. Puis, il y a un problème avec le changement climatique global. On pourra en parler tout à l'heure. L'activité volcanique est très, très intense. Les volcans, ça crache du soufre. Donc, on fabrique des sulfates. Et ensuite, tout s'arrête. Et on a 2 milliards et demi d'années, beaucoup plus calme, avec essentiellement une activité liée au vent et l'eau a disparu. Alors, du point de vue des Américains, ont récemment, ça date de 2003, donc ça va faire 4 ans, deux engins identiques qui sont ces rovers. Ce sont des 6-6 pour les spécialistes qui sont nombreux dans la salle. Donc, 6 roues motrices, 4 roues directrices, 4 points, et 6 moteurs sur chaque roue, bien sûr. C'est alimenté à l'énergie solaire, donc panneau solaire. Le tout fait 200 kg, hein, les panneaux solaires sont à peu près au niveau de cette table. Des caméras stéréo pour la vision, double caméra stéréo pour diverses raisons, mais en plus pour de la redondance. Une antenne de communication avec la Terre, bon, qui en pratique a été très peu utilisée, qui est ici. Ça, c'est des antennes modernes plates, hein, qu'on retrouve maintenant sur les balcons. Ça, c'est une antenne de secours, on va appeler. Et l'antenne la plus utile, en fait, elle est minuscule, elle est grande, on la voit même pas. C'est une antenne qui permet de dialoguer avec les satellites qui tournent autour de Mars, qui sont à 300 km typiquement, alors que la Terre se situe plutôt à 200-300 millions de kilomètres. Donc vous voyez que les distances sont tout à fait considérables. Les engins qui ont fait des analyses sont ici, plus une caméra infrarouge qui est là avec un périscope. C'est pour ça que le tube ici est assez épais, c'est qu'il y a un tube optique ici. Et les yeux pour toute l'image stéréo qui permet d'avoir la troisième dimension. Si vous voulez savoir s'il y a un trou, il faut savoir à quelle distance est ce trou. Et on utilise simplement la vision stéréoscopique classique des deux yeux pour déterminer la distance. Et ça marche très très bien. Alors, il y a deux engins, mais je vais vous parler surtout d'un seul, d'Opportunity. Sur cette carte, vous avez des taches vertes, c'est là où on a trouvé depuis l'orbite un minéral un peu curieux qu'on appelle l'hématite, que je ne connaissais pas d'ailleurs à l'époque. Mais bon, en gros, l'hématite est intéressante parce qu'elle s'est fabriquée en présence d'eau, c'est toujours la même démarche. Et vous avez ici l'ellipse de ce qu'on appelle l'ellipse à 3 sigma. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas, mais ça veut dire que vous avez 99 chances sur 100 en visant le point central de tomber à l'intérieur de l'ellipse. Compte tenu du vent, compte tenu de la pression atmosphérique, à partir du moment où vous touchez l'atmosphère, tout est balistique, vous tombez, j'allais dire, comme une pierre, avec des boucliers, avec des parachutes, et donc, quand vous arrivez en biais, ben, vous avez quelque chose qui n'est pas un cercle, mais qui est une ellipse, puisque vous arrivez sur le côté. Donc, on place l'ellipse là où il faut, et on met l'ellipse, ben, pas à travers un cratère, parce qu'on n'a pas du tout envie de tomber sur un cratère, on met ça sur une région très plate. C'est pour ça que vous allez voir un paysage de Mars extrêmement plat, mais il y a un biais, c'est que parce qu'on a fait en sorte de se poser là où c'est plat. On aurait pu se poser sur les montagnes ou sur les cratères, mais du point de vue de l'ingénierie, c'est beaucoup plus compliqué, et les ingénieurs ont dit, pas question, on va se poser là où c'est plat. Donc voilà la vue de là où on s'est posé, et il se trouve que l'endroit est tellement plat que, pour la première fois...
Pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux faire?
Bon, enfin... Je vais le faire à la main, voilà. Donc vous avez ici un tout petit cratère, qu'on appelle le cratère Eagle. Je ne sais pas s'il y a des golfeurs dans la salle, mais quand on fait Eagle au golf, c'est qu'on fait un 3 trous en un, quelque chose comme ça. Donc en fait, là, ils ont fait 400 millions de kilomètres, et pof, ils sont tombés dans le trou. Le trou, c'est le petit cratère, et le petit point au centre, c'est l'engin qui s'est posé. Et vous avez le bouclier, le parachute qui est là. Vous verrez sur des films pourquoi je vous parle de parachute. Et le bouclier d'entrée, qu'on visitera tout à l'heure, qui est ici, et un grand cratère d'environ... 130 mètres de diamètre qu'il ira visiter tout à l'heure. Alors par contre, voilà la première image de cet endroit, de ce cratère, et vous avez d'une part ce qu'on appelle des roches affleurantes. Bon, ça c'est la première fois qu'on découvre ce genre de roches. Ça a été une très très bonne surprise pour les scientifiques, puisque évidemment c'est très intéressant d'aller analyser ce type de roches, à l'inverse de ce qu'on avait fait par le passé, où on avait trouver des cailloux posés sur le sol, et on avait analysé ces cailloux, mais ces cailloux, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils viennent d'un éjecta lointain, d'un cratère qui s'est formé à 200-300 km de là. Donc finalement, le caillou n'est pas représentatif de l'endroit où vous êtes. Là, vous êtes sûr que la roche qui est ici, elle a toujours été là, et donc vous allez analyser effectivement le terrain sur lequel vous êtes. Alors vous voyez des traces assez artificielles ici, et on en voit d'autres par là, je crois, voilà. Ça, ce sont les airbags, ce sont les systèmes d'amortissement au moment où vous allez arriver sur le sol. C'est des engins, c'est de la toile cousue, très solide. Voilà exactement les airbags utilisés en phase de test au Jet Propulsion Laboratory, qui est le laboratoire américain qui a fait la mission. Voilà, donc vous voyez ces coutures, c'est celles qu'on retrouve sur le sol. Donc on a affaire à un sol extrêmement plat, et en plus extrêmement... dépourvu de cailloux, donc c'est uniquement de la poussière partout. Et ça, c'est très très unique sur Mars, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir sur cette planète. Alors, un mot sur les instruments au bout du bras du rover. D'une part, une ponceuse, bon, c'est un principe, c'est pas tout à fait de la polymérie, mais c'est des tiges qui tournent très très vite, qui vont poncer la roche. Un instrument qui va mesurer la composition des roches, on appelle ça un spectromètre à fluorescence X. C'est le domaine des rayons X, donc. Un autre instrument qui s'intéresse au fer et à l'état d'oxydation du fer. Alors pourquoi on s'intéresse au fer? Parce que si Mars est rouge, c'est que Mars est rouillé. Et la rouille, c'est du fer oxydé. Donc on va s'intéresser à l'oxydation du fer avec cet instrument. Et ça, c'est juste une loupe, une caméra fortement grossissante qui nous donne des images de 3 cm. Alors dans ce petit cratère, le rover, il va beaucoup, beaucoup travailler. Vous allez voir l'animation. Ça va durer un mois. On est début 2004. Alors, il sort son bras et il va tout de suite foncer vers ces roches affleurantes qui sont au bout, parce que c'est vraiment ces roches qui l'intéressent. Entre-temps, il va analyser le sol pour avoir un petit peu une référence globale. Regardez bien l'ombre. L'ombre vous montre que les mesures sont faites sur des durées longues. On peut arriver à faire une mesure qui va durer 15 heures, par exemple. Or, ce que je n'ai pas dit, c'est que Mars tourne en 24 heures 40 minutes, ce qui est presque comme la Terre, et donc la durée du jour, c'est environ une douzaine d'heures. Donc on peut être amené à faire des mesures pendant une journée entière, voire pendant la nuit, ou voire pendant deux jours consécutifs. Ça, c'est des problèmes d'intégration de données. Et ça va durer pendant un mois. Dans ce petit cratère, il va continuer à s'agiter, et il va faire des mesures intéressantes. Voilà, ça, là on est en mars 2004 et ils vont trouver du soufre. Et le soufre, on commence à trouver du soufre sur Mars, qui n'était pas quelque chose de très connu à l'époque, hormis des roches volcaniques en rouge qui n'ont pas de soufre. Et puis sur ces roches affleurantes, on a ce soufre important qui indique qu'on a affaire à des roches sédimentaires. Et ça, c'est un élément nouveau qui maintenant commence à être bien connu. L'image est très grande. Alors ça, c'est un petit peu symbolique. Voilà toute l'activité intense dans le cratère. vous voyez les traces sur le sol. Donc ça, c'est les airbags en question. Hein. Il s'est posé avec ces espèces de coussins qui ont été rétractés par en dessous. Et il a analysé pendant un mois entier toutes ces roches. Et il a essayé de sortir de son petit cratère avec difficulté, néanmoins, parce que là-bas, il a complètement dérapé. Il a fait une deuxième tentative par ici, il a dérapé aussi, et finalement, il a enfin réussi à sortir. Et le rover, il est là, puisque c'est lui qui prend la photo. Alors maintenant, que faire? Parce que quand vous êtes sur un terrain comme ça, vous imaginez que ce n'est pas très passionnant. Vous allez analyser une fois le sol, et puis vous allez avoir toujours le même sol. Donc il faut trouver un objectif. Et l'objectif, c'est ce qui est au bout, à l'horizon, là-bas. En fait, c'est le grand cratère que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici sur cette image. Vous avez un beau coucher de soleil sur ce cratère, et donc il va foncer vers ce cratère. Il va mettre à peu près 3 mois à l'atteindre. Et voilà le cratère vu de près. Dans ces grosses images, comme ça. Voilà. Donc il va descendre dans ce cratère. Je ne vais pas insister beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'attire votre attention sur quelque chose de tout à fait anormal. C'est le bord du cratère. Un cratère, normalement, ça éjecte du matériau et vous devez avoir un bord qui est constitué de plein de cailloux posés sur le sol. Ça doit être extrêmement chaotique. Là, le bord du cratère, on peut tirer un trait. Il est ici, le bord du cratère. On le voit très bien. Et comment c'est possible? En fait, c'est qu'il y a très probablement eu beaucoup de poussière volcanique qui s'est déposée sur le cratère après que le cratère se soit formé. Et ensuite, le vent a agi là-dessus. Et simplement, le vent poussant, ça a créé une limite qu'on peut tracer au crayon. De l'autre côté, c'est pareil. Le bord est extrêmement net, comme s'il avait été taillé au couteau. Ce qui n'est évidemment pas du tout la réalité de ce qui se passe au moment où un engin va percuter le sol et va créer un cratère comme celui-là. Au fond, il y a beaucoup de poussière. Et pour lui, c'est très dangereux parce qu'il peut s'enliser dans la poussière et donc il ne va surtout pas aller au fond. En fait, il va descendre, il va ressortir. Et il va faire des analyses, bon, je ne vais peut-être pas les commenter parce que c'est un peu technique et c'est, bon, finalement, ça ne va pas beaucoup révolutionner les choses. Alors, il est allé voir l'impact de son bouclier, vous savez, ces boucliers thermiques qu'on utilise sur les fusées, sur tous les corps de rentrée atmosphérique. Le bouclier en question, il est là. Ça, c'est l'impact qui a fait pas mal de dégâts ici. Et une partie qui est simplement la structure qui tient le bouclier, qui s'est complètement retournée. Et là, on n'est plus du tout dans une démarche scientifique, on est dans une démarche technologique. Et je ne sais pas si vous savez, mais avec les Américains, la technologie est très secrète. Donc, dès qu'on va commencer à parler de technologie, le secret sera absolu. Donc, sur cette image, il y a, je dirais, des choses un peu aberrantes. Bon, vous allez me dire, vous avez pollué Mars. C'est vrai qu'on voit des petits ressorts, des choses pas très propres. Ces petits ressorts ne nous gênent pas beaucoup parce que d'une part, on n'en voit pas beaucoup d'engins sur Mars. Et d'autre part, c'est une pollution qui est totalement inerte. C'est-à-dire que ce petit ressort-là, je reviens dans 1 million d'années, il n'aura pas bougé. Il sera peut-être enfoui dans le sol, il n'aura pas proliféré. Par contre, on ne veut pas envoyer des bactéries terrestres qui, sur cet engin-là, pourraient se mettre à proliférer dans le sol. Et si on revenait dans 1 million d'années, Mars serait totalement envahi par les bactéries terrestres. Et ça, pour les générations futures, on veut l'éviter absolument. Donc on stérilise tout ce qui se pose sur Mars avec des conditions de stérilisation de plus en plus drastiques. Alors je veux dire, sur l'image, il y a un point aberrant, c'est ce qui est là. Et ce caillou est complètement anormal. D'ailleurs, ça a beaucoup surpris les scientifiques. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ils sont allés le voir de près. Et ils l'ont analysé avec le seul instrument, les deux instruments qu'ils avaient. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient devant eux une météorite. Une météorite métallique. Vous voyez que ça a une forme métallique. Ça a presque fondu au moment où c'est rentré dans l'atmosphère de Mars. Ça, c'est un morceau d'astéroïde. Ça vient des astéroïdes. C'est métallique. On ne pensait pas du tout trouver les météorites sur Mars. Parce que la probabilité que vous promeniez n'importe où sur Terre et que vous trouviez une météorite, est rarissime. D'ailleurs, je pense qu'aucun de vous n'a jamais trouvé une météorite, moi non plus. Mais là, vu qu'il n'y a aucun caillou, le seul caillou que l'on trouve, c'est une météorite. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Il y a quelques endroits sur Terre où c'est exactement le même cas. C'est au Groenland, vous avez des... ou en Antarctique d'ailleurs. Non, je crois que c'est au Groenland. Des zones d'accumulation de glace. Les glaces bougent un peu comme des glaciers. Et vous avez des endroits où, sur voleur d'hélicoptère, tous les points noirs que vous voyez à l'œil nu sont des météorites. Et d'ailleurs, il y a des expéditions qui, comme ça, collecte des météorites, y compris des météorites qui viennent de Mars. Nous avons à peu près 25 météorites dans nos laboratoires qui viennent de Mars. Il y a eu tout un débat de savoir si elles venaient vraiment de Mars, mais je crois qu'on est à peu près convaincus. Celle-là, il n'y a pas du tout de Mars, en l'occurrence, c'est bien un astéroïde. Et comme on n'a pas de moyen d'analyser plus que ça, on est passé à autre chose. Alors ensuite, la mission est devenue un peu monotone, puisque après, ce qu'on appelle les sols ici, sont les jours martiens. Sol pour soleil, pour cycle solaire. Donc 90 sols, on est à peu près par ici, il y a 3 mois. Et là, on est à 383 ici, donc un an sur Mars, un an terrestre sur Mars. Et le but, c'est de descendre plein sud, de foncer plein sud vers un très grand cratère, qui n'est même pas sur l'image. Et là, il va se passer un phénomène assez curieux, c'est que même les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, qui sont des gens plutôt sérieux, ils ont commencé un peu à se griser de la vitesse, toute proportion gardée. C'est pas tellement de la vitesse. Ils ont commencé à faire des records de distance par jour. Au début, ils nous avaient annoncé, tout simplement, le rover fera 40 mètres par jour, pas plus. Alors, ils ont commencé à faire 40 mètres par jour, puis le terrain étant totalement plat, ils sont montés à 50, 60, 70, 100 mètres par jour. Ils ont trouvé que c'était très excitant. Et ils ont atteint un record de 200 mètres par jour, qui est un record tout à fait, qui n'a jamais été dépassé depuis. Et simplement, en jouant un petit peu à battre les records, il s'est passé des choses pas prévues. Ils se sont enlisés. Un peu comme dans Paris-Dakar, vous avez la zone d'enlisement qu'ils ont appelée le purgatoire ici. Alors, c'est une malheureuse dune de 30 cm de haut, qui est ici. Et là, il y est resté 3 semaines. Alors ça a été très compliqué. Je vous invite à regarder ici. Donc là, vous voyez que le taux de glissement est extrêmement fort, 98%. Et tout d'un coup, ça décroche. Donc ça recommence, là ça glisse. Et top, ça décroche. C'est exactement le Paris-Dakar. C'est-à-dire que vous faites marche arrière, en général, vous mettez des tombes sur les roues. Là, je crois que vous connaissez bien le problème. Simplement, ils avaient peur de s'enfoncer dans le sable. Donc, regardez bien l'ombre. À chaque fois, c'est des journées entières. On fait un tour, on mesure le déplacement, on fait un tour. Et là, ils mesuraient les taux de glissement de 98%. Donc, au bout de 3 semaines, finalement, ils sont ressortis de leur purgatoire. Et le résultat, c'est que, je reviens sur cette image, ils vont devoir maintenant, donc les records de distance ne sont plus battus, ils ne battront plus jamais. Ils sont obligés de se promener comme au Paris-Dakar, c'est-à-dire dans les dunes. Donc, ils vont rester dans le creux. Et à un moment, ils vont choisir un endroit particulier pour traverser la dune. Encore une fois, la dune fait 30 cm de haut. Mais comme la roue elle-même en fait 15, ça commence à être un peu limite pour lui. Et en plus, le rover ne sait pas qui s'est enlisé. C'est-à-dire que les moteurs tournent, et le résultat, c'est que vous vous enfoncez. La première chose que vous faites dans le désert, si vous arrêtez de faire tourner les roues, parce que vous allez vous retrouver sur la caisse. Donc là, lui, il a tourné pendant une journée entière et il s'est enfoncé. Donc il a fallu mettre en point un système pour que le rover sache s'il avance ou s'il n'avance pas. C'est pas très simple. Il y a différentes techniques utilisées. Et une, ça consiste à prendre des images régulières en faisant des zigzags. Et si sur l'image, le paysage change, ça veut dire que vous bougez encore. Si par contre, sur l'image, ça ne bouge pas, ça veut dire que vous êtes en train de vous enliser. Et donc à ce moment-là, on arrête les moteurs. Et ça, il le fait de façon totalement automatique, pour ne pas se retrouver dans un purgatoire comme celui-là. Alors, je repasse mon purgatoire, et là on continue à descendre, et on commence à voir la destination, qui est ce superbe cratère ici, qu'on appelait Victoria, et il va mettre 2 ans à descendre, puisque au compteur, il en est à 11,5 km, ce qui est tout à fait important. Là, on est au 819e jour martien, c'est-à-dire plus de 2 années, il va arriver au niveau du cratère en septembre 2007, donc septembre dernier. Et là, il va refaire un petit peu ce qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire qu'il va explorer le bord du cratère. Il est arrivé par ici. Il va commencer à explorer toute cette zone pour essayer d'identifier l'endroit où il va pouvoir descendre. Et ça pourrait être bien son cercueil, ce cratère, parce qu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir remonter. Ils ont baptisé du nom de cap de grands explorateurs, Magellan, Cook, etc. Donc vous avez la Duck Bay, Cap Verde, Cap Sainte-Marie, Cabo Antonio, etc. Il faut bien nommer ce qu'on a sur les images. Donc il a fait un tiers de tour et puis finalement il amorce la descente ici, là où il est arrivé. Et depuis, je ne sais plus, je crois que c'est octobre ou novembre, il a fait sa descente et il est en train d'analyser les roches sous cette falaise ici. Voilà, donc ça c'est un photomontage bien sûr, hein, il n'y a pas de photographe sur Mars. Donc ça c'est pour vous donner l'échelle un petit peu de la falaise sur laquelle il se trouve. Le rover qui fait à peu près 1,50 m de haut, une falaise qui fait une dizaine de mètres, avec des couches géologiques, une triple couche ici, qui ne sont pas faciles d'accès. Le rover va avoir du mal à analyser ici ou là, il ne pourra pas d'ailleurs. Et voilà ce très, très beau cratère dans lequel il est en train de descendre. Donc ça c'est une autre vue, la même falaise mais cette fois en noir et blanc. On voit bien les couches, donc première couche assez meuble, et là, vous voyez que tout est fissuré partout. Pourquoi c'est fissuré? Parce que c'est un cratère. Donc au moment où il y a eu l'impact de l'astéroïde, si le cratère fait 800 mètres, c'est un objet de 80 mètres qui est tombé. Donc ça a fissuré la roche partout par le choc de l'impact. Voilà, ça c'est une autre image pour vous montrer que les Américains aiment bien améliorer leur système. En fait, ils ont mis au point un système ici de contournement un peu plus progressif d'un obstacle. Au lieu de faire des angles droits, ils ont réussi à mettre au point un logiciel qui va faire une courbe pour simplement contourner ce tas de cailloux. C'était un exercice qu'ils se sont imposé eux-mêmes. Pour contourner ce tas de cailloux, ils ont mis au point un logiciel assez sophistiqué qui est uploadé, comme on dit, qui est chargé à bord du calculateur pour contourner tout seul le tas de cailloux. Alors, vous voyez aussi sur l'image une chose qui est assez classique pour les explorateurs, mais cette fois je parle des explorateurs qui exploraient, je ne sais pas, la Sibérie ou les pôles. Si vous voulez connaître votre distance, vous faites une marque sur la roue, et à chaque tour de roue, vous savez que vous avez fait un tour de roue. Donc si votre compteur est en panne, vous vous mettez à compter le nombre de marques sur le sol, et là ça marche très bien puisque le sol est très meuble, et en plus vous savez que vous ne glissez pas du tout, ça permet de mesurer le glissement si vous avez des problèmes de pente ou des choses comme ça. Et donc c'est ancestral, hein, c'est vieux comme le monde, mais c'est également utilisé sur Mars pour mesurer la distance. Voilà la dernière image de l'engin qui est descendu dans son cratère. Depuis, toutes les semaines, on a des comptes rendus d'activité, si je puis dire, de ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en train d'aller se glisser derrière cette falaise ici. Mais tout est un peu au ralenti parce que les équipes sont moins nombreuses qu'au début. Ça fait 4 ans que ça dure, que les crédits, la NASA a baissé un petit peu les crédits, donc les équipes étant moins nombreuses, les activités au jour le jour sont moins intenses. Mais petit à petit, il commence à faire ses analyses et je pense qu'il va rester au fond de son cratère jusqu'à la fin de ses jours. Alors, des choses un peu exotiques qui ont été faites par ces engins, avec beaucoup de savoir-faire, c'est pas simple du tout. Vous prenez une photo du Soleil et au moment où il y a une éclipse. Donc voilà une éclipse de Lune, une éclipse de Soleil par les lunes de Mars. Il y a deux satellites autour de Mars, le Phobos, le gros, et Deimos, le petit point noir ici. Les deux ont à peu près 15-20 km de diamètre, simplement Phobos est beaucoup plus près de la surface. Donc Phobos occulte mieux le Soleil, Deimos étant beaucoup plus loin, on le voit moins bien. Mais ça, c'est pas très simple à faire. Il faut un très bon chronomètre, il faut une très bonne précision de visée. Et pour prédire l'éclipse, c'est prendre la photo au moment où l'éclipse a lieu. Je crois qu'ils ont souvent raté leur image avant d'arriver à celle-là. Alors, d'autres petites choses un peu exotiques. Sur ces deux images qui s'alternent ici, vous avez les points qui apparaissent. En fait, ce sont des tornades. Les tornades, c'est un phénomène assez fréquent sur Mars. Bon, malheureusement, j'ai des vues un peu plus spectaculaires, mais je ne les ai pas retrouvées. En fait, ces tornades, c'est un peu comme celles qu'il y a aux États-Unis. Hein. Elles existent, donc c'est des tourbillons de poussière qui ont tendance à laisser des traces. Voilà des traces ici de tornades. Et il peut y en avoir beaucoup à un moment donné de la journée. Elles sont pas destructrices. Aux États-Unis, beaucoup, les tornades font des dégâts monstrueux. Mais sur Terre, sur Mars, les tornades sont passées au-dessus du rover. Et le rover ne s'en est même pas aperçu. Les ingénieurs ne s'en sont pas aperçus, sauf d'une chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'énergie électrique, tout d'un coup, avait augmenté considérablement. Alors l'énergie électrique, c'est quoi? C'est la quantité de photons qui arrivent sur les panneaux solaires. Et comme il y a beaucoup de poussière qui tombe en permanence sur les panneaux solaires, au fur et à mesure de la mission, l'énergie disponible tous les jours baisse. Et à un moment, une tornade est passée sur le véhicule, et hop, telle une bonne ménagère, il a complètement nettoyé le panneau solaire, et le niveau d'énergie en watts est remonté à des niveaux d'environ 500 watts-heure pour les spécialistes, c'est-à-dire la quantité d'énergie disponible au quotidien. Donc, là où on pensait qu'à cause de la poussière, la mission allait s'arrêter, faute d'énergie, eh bien, le nettoyage par les tornades a permis d'avoir une mission qui, finalement, dure depuis 4 ans sur les deux engins. Alors voilà, une zone tout à fait incroyable de Mars, où les tornades ont beaucoup, beaucoup sévi. Partout où une tornade se promène, en gros, le sol est clair, la tornade passe, soulève la poussière et laisse apparaître en dessous un sol plus sombre. Donc toutes les traînées noires, ce sont les tornades qui sont passées. Donc il y a des régions sur Mars où les tornades sont vraiment très, très nombreuses. Alors, maintenant, une autre mission, c'est celle dont j'ai parlé au début, qui s'appelle Phoenix, et qui va atterrir sur Mars le 26 mai à 1h30 du matin. Vous pouvez vous mettre sur Internet pour les passionnés. Moi-même, je serai à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, puisqu'il y a une nuit spéciale organisée par la Cité des Sciences pour vivre en temps réel l'événement et pour avoir la certitude que cet engin s'est posé convenablement et communique bien avec la Terre. Vous savez que sur Mars, très difficile de se poser. Le taux d'échec, je l'ai dit, est très nombreux. Aujourd'hui, sur les 35 missions spatiales, il y en a deux Viking, un Pathfinder et les deux Spirit Opportunity. Il y en a 5 qui sont posés sur Mars. Tout le reste a échoué. Donc c'est très difficile. Et là, on va se poser avec des rétrofusées. Vous allez voir d'ailleurs comment ça se passe, puisqu'il y a un petit film. Bon, ça, c'est une vue coucher de soleil. On est au pôle Nord, j'ai oublié de le dire, donc un soleil très rasant. Et voilà le film. Ah non, le film ne marche pas, c'est vrai. J'allais le chercher à la main. Bon, ça, c'est des aléas de la technique. Alors, voilà le film. Il est plein d'écran, oui. Donc, on arrive, ça, c'est la croisière, avec un module de croisière qui est largué parce qu'il n'est pas intéressant. Après, donc un bouclier thermique qui va freiner l'engin très violemment, ça va chauffer très fort. Au tout début du contact avec l'atmosphère, on arrive à 5-6 km par seconde. Donc je vous laisse calculer en kilomètres heure, c'est énorme. Dès qu'on a une vitesse un peu plus basse, on peut ouvrir un parachute et ensuite on descend un peu plus calmement, on largue le bouclier thermique et on va terminer la descente. Le parachute ne nous permet pas de se poser en douceur, c'est pas suffisant. Donc il faut des rétrofusées, il y a diverses techniques, soit c'est des airbags, soit c'est des rétrofusées. Et ça c'est une caméra de descente qui va regarder où on se pose et éventuellement dévier si on tombe sur un gros rocher. Donc voilà ce qui va se passer à 1h30 du matin. Des rétrofusées s'allument et vaille que vaille, vous voyez que c'est assez instable. On se pose, pas très loin du pôle Nord, donc un engin qui fait, je ne sais plus, 300 ou 400 kg à peu près, qui va immédiatement déployer les panneaux solaires horizontaux. Alors on avait le choix, soit on prenait les panneaux solaires verticaux, mais à ce moment-là il fallait s'orienter en permanence vers le soleil, soit on prend des grands panneaux solaires à plat et le soleil va tourner autour et finalement c'est le plus simple. Donc des caméras stéréo pour faire le panorama, un mât météo pour mesurer le vent, etc. Un bras manipulateur qui va gratter le sol et prélever des échantillons du sol et qui va les analyser dans ces instruments qui sont ici. Et ça, donc la mission va durer 3 mois. On tombe évidemment au moment du printemps et de l'été du pôle Nord. Mais ce qui est certain, c'est que dès qu'on va rentrer dans l'hiver au pôle Nord, l'engin sera définitivement mort, parce qu'il est incapable de survivre à la nuit martienne, qui va arriver dans à peu près 300 jours, puisque, je ne l'ai pas dit, mais l'année martienne dure à peu près 2 ans. Donc les saisons sont 2 fois plus longues. Donc entre l'été et l'hiver, il va se passer environ 350 jours à peu près. Donc il va gratter le sol, mettre les échantillons dans cet engin-là, et faire des analyses sur les volatiles piégés dans le sol qui vont nous raconter un petit peu l'histoire du climat sur Mars depuis 100 000 ans, 1 million d'années. Ça, c'est une expérience d'étude de l'atmosphère qui est russe, qui est ce qu'on appelle un LIDAR, qui va étudier la quantité de... Et avec cet engin, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez du plutonium radioactif qui déforme, et ça fabrique de la chaleur, et vous mettez un thermocouple. Vous connaissez le thermocouple, je pense? Bon, un thermocouple, c'est quelque chose qui vous transforme de la chaleur en différents de potentiel. Vous mettez ça aux bornes de la batterie, ça charge la batterie. Donc finalement, cet engin-là fabrique de l'électricité pour alimenter tous les systèmes, y compris les moteurs du rover, les systèmes de communication, les expériences, etc. Donc c'est pas de la propulsion nucléaire, c'est de l'alimentation électrique nucléaire. Que dire de plus? Donc il y a des instruments un peu plus importants ici. Il y a un gros laboratoire qui est caché là, et un instrument franco-américain au sommet. En fait, ça c'est un laser, et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, un mot sur les dimensions, 2 mètres de long, 2,20 mètres de haut, 2,60 mètres de large. Donc finalement, on n'a pas de problème de route étroite. Pourquoi si large? Simplement pour le terrain en biais, pour descendre dans des pentes, pour se retrouver à flanc de cratère. Il vaut mieux ne pas basculer, donc ils n'ont pas désigné à faire un engin qui est plus large que long. Qui fait 2,26 m de long et 2,60 m de large. Voilà, donc les expériences, je vais en parler un petit peu. Donc l'expérience franco-américaine, ça c'est un laser français avec un système d'analyse des roches qu'on appelle le NIC. Donc on va analyser les roches à distance avec un système laser. Vous avez ici donc, le laboratoire analytique qui est derrière, là, avec une grosse expérience de spectrométrie de masse, chromatographie en phase gazeuse. Donc là, on va réellement analyser les échantillons. Alors, on ne va pas rechercher la vie directement ici, hein, les expériences ne le permettent pas. Par contre, on va essayer de trouver de la matière organique, des molécules carbonées, qu'on va analyser surtout grâce à l'expérience également franco-américaine ici, qu'on appelle SAM. Et mardi, c'est une caméra de descente, par exemple. La PXS, c'est le système à fluorescence X. Voilà, donc il y a une batterie d'instruments assez complexe et une mission qui est elle-même extrêmement complexe. Vous allez voir un peu comment on se pose sur Mars avec un engin pareil, mais c'est tout à fait spectaculaire. Voilà, le principe du LIP, c'est qu'on tire au laser sur les cailloux et la lumière, c'est un laser de puissance, donc qui va vraiment, même pas fondre, mais créer un plasma dans la roche. Très lumineux, et ce plasma crée une lumière ultraviolette qui vous donne des raies d'émission. Et la position des raies, là, il y a écrit silicium à la lumière, donc ça vous donne la nature de la roche. Et c'est très puissant pour analyser les échantillons, déjà à distance, avant même d'avoir bougé. Alors, voilà le film du rover qui va se poser. C'est un film américain.
On repousse du son. Donc là, on pilote dans l'atmosphère, c'est déjà assez innovant. Ce pilotage, ça n'a jamais été fait encore. Donc ça permet d'arriver beaucoup plus précisément sur Mars que par une simple descente balistique. Le parachute, c'est assez classique, et là, vous allez voir que ce n'est pas du tout classique. C'est même extrêmement innovant. Donc des rétrofusées, un peu comme Armstrong sur la Lune. C'est assez olé olé. Et l'engin va descendre en douceur. Ça a l'air très stable, parce que les rétrofusées sont au-dessus. Donc c'est naturellement stable, alors que Phoenix était naturellement instable. Les rétrofusées étaient en dessous, il avait tendance à vouloir se retourner tout seul. Et en plus, un ascenseur pour déposer le rover. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les rétrofusées polluent le sol. Donc on va poser le rover, et dès qu'il va se poser, clac, on coupe les câbles, et l'engin va aller s'écraser ailleurs. Voilà. Vous entendez les petits bruits, ce qu'on appelle des pyrotechniques. Donc c'est des boulons pyrotechniques qui coupent les câbles par explosif. Et là, là, la mission commence réellement. Donc vous déployez le mât avec les caméras et le laser dont j'ai parlé. Ça c'est le réacteur nucléaire ici. Enfin c'est pas un réacteur, c'est un réacteur propre. Et donc il est prévu de vivre une année martienne, c'est-à-dire 2 années terrestres sur Mars. Il est vendu pour faire 20 km, mais les Américains sont très prudents. Spirit était vendu pour faire 600 mètres, il a fait 11 km. Donc là, je pense que s'ils disent 20 km, ils devraient faire à peu près une centaine, voire 200 km sur Mars. Donc on commence vraiment à faire de l'exploration régionale. Et là, je vous donne rendez-vous en 2000. Le lancement, c'est 2009. On va peut-être pas se le revoir une deuxième fois. Lancement en 2009, arrivé sur Mars l'été 2010. Finalement, dans 2 ans, c'est dans pas très longtemps. Alors, l'Europe, quand même, l'Europe est encore un petit peu en retard. Pourquoi on est en retard? Parce que les Américains dépensent à peu près 10 fois plus d'argent dans ce type d'exploration que nous. Malgré le fait que le poids économique des États-Unis et de l'Europe est équivalent, l'effort dans le domaine spatial
Et dans, j'ai dit 10, pour le spatial civil, c'est un facteur 7. Donc les Américains dépensent 7 fois plus d'argent que les Européens. Pour le spatial militaire, le rapport est d'un facteur 30. Et il est d'un facteur 30 parce que les seuls militaires dans le spatial, c'est la France. Donc, si la France ne faisait rien dans le militaire spatial, le rapport serait presque infini. Bon, ça, c'est une anecdote sur les priorités programmatiques dans ce domaine. Donc, l'Europe va faire un rover un peu comme Spirit, des panneaux solaires. Donc, on n'a pas la technologie nucléaire, malheureusement. On l'aura peut-être un jour. Des caméras stéréo. Ce qui est assez innovant pour l'Europe, ce sera un système de forage. Pourquoi un système de forage? Parce que, donc là vous allez voir l'arrivée de cet engin, donc c'est ExoMars. Vous n'allez pas voir la phase de descente parce qu'elle n'était pas définie au moment où ils ont fait le film, donc ça va être censuré tout simplement. Donc vous allez voir juste le début et ensuite directement sur Mars. Peut-être qu'un jour ils feront un film complet. Voilà. Donc on passe directement à l'arrivée sur Mars. Donc là vous avez des airbags, donc on se pose aussi avec des airbags. Et. L'aspect innovant de cette mission par rapport à ce que font les Américains, c'est le forage, ce qui est nouveau et qui n'a jamais été fait et qui est très intéressant. Je peux vous expliquer pourquoi. Et en plus, le fait que l'engin va réellement chercher la vie. Là où tous les autres, à part Viking en 1976, tous les autres restaient dans un domaine de recherche indirecte, soit en chercher l'eau, soit en chercher le carbone, mais pas la bactérie elle-même, pas le vivant tel qu'il pourrait exister sur Mars. Et évidemment, c'est en forant. Parce que les missions Viking, en 1976, n'ayant pas trouvé la vie, ont néanmoins trouvé que le sol est extrêmement oxydant. Alors ça, c'est de la chimie un peu compliquée. Si le sol est très oxydant, en gros, la vie n'est pas possible. Donc, à la surface de Mars, toute bactérie va être immédiatement détruite par le rayonnement UV solaire, par le rayonnement cosmique. Donc c'est dans le sol qu'on pense qu'on va trouver des bactéries, d'où l'idée de forer. Le système de forage est italien et si tout va bien on espère descendre jusqu'à 2 mètres mais c'est extrêmement risqué parce que le risque c'est de bloquer la foreuse bien sûr. Or c'est un peu antinomique de mettre un forage sur un rover qui bouge. Si on bloque la foreuse il faut pouvoir décrocher le forage, sinon on est bêtement scotché là où la foreuse. Bon, ça c'est juste pour vous illustrer les instruments d'analyse qui sont sur cet engin. Et bon, là il va falloir être un peu patient, la mission est prévue pour 2013, on y travaille en ce moment. Ça se passe pas très bien, c'est compliqué l'Europe, il y a plein de pays impliqués là-dedans. L'Italie beaucoup, mais tous les grands pays, l'Allemagne, la France, l'Angleterre également. Et c'est un petit peu complexe à manager, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on prend plus de temps que les Américains. Et donc le lancement est prévu en 2013 et l'arrivée sur Mars est prévue en 2015. Pourquoi 2 ans? Parce que là aussi on prend un peu plus de temps qu'il arrive. Mais ça on peut en parler et je crois que voilà, ça c'est ma dernière planche. Juste pour vous parler du futur en 2 mots, le futur, donc je vous ai présenté le gros rover américain 2009, c'est les années de lancement. Hein. On lance tous les 2 ans. 9, 11, 13, bon, ça se décale un peu parce que c'est pas tout à fait 24 mois. ExoMars, vous l'avez vu tout à l'heure, donc il y a une mission américaine ici, le transparent et NASA. Hein. Et la grosse mission qui intéresse beaucoup la France, c'est le retour d'échantillons, c'est-à-dire se poser sur Mars, ramener des morceaux de cailloux de Mars sur Terre. Ça, c'est une mission qui est très très intéressante, qui à mon avis sera la seule à pouvoir réellement, définitivement, pouvoir dire oui, la vie existe sur Mars ou non, elle n'existe pas. C'est en ramenant les échantillons sur Terre, les analysant en laboratoire avec des moyens d'analyse incomparables de ce que ce malheureux engin va pouvoir faire sur Mars. Mais c'est une mission très très complexe, très difficile et qui est repoussée depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, les Américains annoncent 2018-2020. Je ne peux pas mettre ma main à couper que la mission aura lieu en 2018-2020. Néanmoins, elle est souhaitée et souhaitable. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Merci. Bon, merci.